les ingénieurs 15e, 18e siècle. J'aborderai bien sûr cette question dans l'axe qui est celui de la question des concours, à savoir qu'il s'agit des savoirs surtout, mais les savoirs sans les hommes, ça devient un peu difficile à traiter. Donc vous verrez que chaque fois j'essaierai de faire d'associer aussi bien les ingénieurs dans leur action, dans leur circulation et dans leur production de savoir, tout en interrogeant les lieux où ils sont formés. Donc quand on parle des ingénieurs 15e, 18e siècle, on pense immédiatement à leur grande figure tutélaire, c'est-à-dire Archimède et Vitruve. Donc à la fois l'ingénieur grec et celui Vitruve qui a écrit sur l'architecture, un traité d'architecture qui a un très très grand succès à partir du fin 15e, 16e siècle et après pendant toute la période moderne. Donc je vais aborder la question sur le plan d'abord de l'évolution de la définition de l'ingénieur et de l'évolution de leur statut. La question allant du 15e au 18e siècle, il est évident qu'un ingénieur de 1400 et un ingénieur de 1800, ce n'est pas du tout la même chose en termes de compétences parfois, en tout cas de reconnaissance sociale. Donc je verrai l'évolution dans le temps, mais aussi en fonction de l'espace géographique qui est celui de la question. Un ingénieur en Angleterre, un ingénieur en Italie, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc la question sera vue aussi sur le plan, j'ai mis ici les points essentiels. L'évolution du statut de l'ingénieur doit être corrélée à celui des arts mécaniques. Quand je parle d'arts mécaniques, je fais référence en fait aux arts qui sont minorés, on pourrait dire, dans le cursus normal, par rapport au trivium ou au quadrivium. Les arts mécaniques, ce sont les arts qui sont exercés par les hommes des métiers, par les artisans. Donc, toute la transformation du statut de l'ingénieur est liée à la reconnaissance positive des arts mécaniques, à la reconnaissance du fait qu'on ne peut plus se passer des arts mécaniques, notamment des machines et de toutes les applications que proposent ces arts mécaniques. Et on arrive à une valorisation ce qui est appelé les mathématiques mêlées. Du point de vue scientifique, les ingénieurs sont des mathématiciens, mais des mathématiciens qui travaillent surtout sur l'application des mathématiques, application à la navigation, application à l'architecture, application à la géodésie, etc., etc. Donc c'est ce que les jésuites ont appelé dans leur cursus aussi les mathématiques mixtes. Le statut de l'ingénieur dépend aussi, on va le voir dans le temps, des demandes princières. Nous verrons que c'est 15e, 16e siècle, c'est surtout la demande des princes et des princes italiens qui a permis l'émergence de la figure de l'ingénieur. Puis c'est la notion d'utilité publique que l'on appelle plutôt au XVIIe siècle le bien commun, avant que ça devienne aussi on pourrait dire l'utilité publique, et le développement de l'économie, les productions économiques notamment, qui vont augmenter la demande en fait auprès des ingénieurs, qui vont être intégrés notamment à la production. Ça sera le cas de l'Angleterre au XVIIIe siècle. Donc Nous verrons aussi, je reste toujours dans les idées qui sont les fils conducteurs de mon intervention, quand on parle d'ingénieurs, 15e, 16e et 17e siècle, on pense surtout aux ingénieurs militaires. Même quand ils s'occupent d'hydraulique, très souvent, les ingénieurs sont aussi ceux qui accompagnent les pouvoirs militaires. D'ingénieurs militaires, à partir du XVIIIe siècle, commence à se distinguer, en opposition avec ces ingénieurs militaires, des ingénieurs civils. Donc, le XVIIIe siècle va être le siècle où on va reconnaître des corps d'ingénieurs militaires avec des écoles spécialisées et des ingénieurs civils qui vont devenir ingénieurs d'État, former un corps d'État et aussi avoir une école de formation. Ça, c'est le modèle français. Le modèle anglais, c'est développement des ingénieurs civils, mais associés au monde du travail, au monde de la production. Ce ne sont pas du tout des ingénieurs d'État. Bon, voilà, je vous ai tracé les grandes lignes de l'évolution et je vais maintenant entrer un peu dans le corps du sujet. Tout d'abord, celui de la définition. Le terme d'ingeniator apparaît déjà en Angleterre dans le Domesday Book de 1086. Progressivement, le terme signifie qu'ingénieur, c'est celui qui a du génium, c'est-à-dire qui a du génie. Entendez qu'il a suffisamment de ruse pour se rendre maître des contrariétés que la nature offre aux hommes. Donc il y a toujours dans l'idée d'ingénieur celui qui trouve des solutions à des questions pratiques qui sont en général des phénomènes naturels, des forces, des résistances qu'il faut arriver à vaincre, et c'est celui qui arrive à le faire parce qu'il a ce génie qui lui permet de ruser avec la nature. Donc il y a toujours cette idée-là. Alors pour la référence, je vous renvoie à l'ouvrage d'Hélène Vérin, La gloire des ingénieurs ou l'intelligence technique, 16e, 18e siècle. Elle parle en fait, pour le travail de l'ingénieur, de cette intelligence qui consiste à résoudre l'universelle contrariété. Donc la contrariété qu'offrent tous les phénomènes naturels. Donc, pour trouver des solutions, l'ingénieur doit innover. Il y a une part d'invention dans le travail de l'ingénieur. Et cette invention, elle va être possible parce qu'il va suivre une démarche qui est une démarche mathématique. On ne peut pas dissocier l'ingénieur des mathématiques et on ne peut pas le dissocier de la machine. Donc, à la période moderne de l'ingénieur doit être complètement associé à la reconnaissance de l'importance des mathématiques. Je vous rappelle que Galilée a dit « Dieu a donné les mathématiques aux hommes pour qu'ils comprennent le monde ». On a vraiment, c'est une époque où on est persuadé que les éléments de compréhension, ce sont en fait les mathématiques qui les permettent, que ce soit la géométrie, que ce soit l'algèbre, que ce soit la trigonométrie. Donc les mathématiques sont souveraines et l'ingénieur devra avoir une démarche mathématique. S'ajoute progressivement que l'ingénieur est celui qui est capable aussi de fabriquer des machines. Donc, le mécanisme en tant que tel fait partie aussi de la pensée de l'ingénieur. Et ça devient tellement important au XVIIe siècle que quand un ingénieur pense, il pense en tout en termes de machine. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Donc, sa science, ce sont les mathématiques et le dessin. Il doit être capable de dessiner ses machines, il doit être capable de dessiner l'architecture qu'il propose. Donc, c'est un aspect très important de mathématiques et machines. Premier point, on va voir l'évolution du statut de l'ingénieur et la lente reconnaissance de l'ingénieur. Tout d'abord, 15e, fin 16e siècle, où l'ingénieur est tout d'abord un artiste-ingénieur. C'est essentiellement dans la péninsule italienne que l'on repère ces artistes-ingénieurs, et je vous rappellerai que quand on parle d'histoire de l'art au moment de la Renaissance, très souvent derrière le peintre ou derrière le sculpteur, il y a aussi un ingénieur. Exemple, vous connaissez sans doute le Siennois Taccola, son nom c'est Mariano di Jacopo, qui est en fait le peintre d'un Sainte Dorothée à l'enfant Jésus, donc qui est connu comme peintre, mais en même temps c'est l'auteur de deux traités, un d'Ingenéis, donc ce qui est de la création des ingénieurs, et l'autre des machinis. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas dissocier, vous voyez, reconnaître un ingénieur qui ne ferait que des travaux d'ingénieur, ils sont aussi artistes. Donc ils fréquentent le monde des ateliers. Le très grand peintre Piero della Francesca, vous avez ici la flagellation du Christ, il est à Urbino, et dans cette ville il écrit aussi des traités de mathématiques extrêmement savants, et notamment des traités sur la perspective. Donc ce qui signifie que les humanistes, ceux qui travaillent sur les arts mécaniques, vont avoir exactement la même démarche de lecture des textes des anciens, donc le retour aux textes qui sont imprimés grâce à cette amélioration de l'imprimerie, grâce aux traductions aussi. Ce sont les références que les artistes de la Renaissance ont, mais que les ingénieurs aussi ont. C'est-à-dire que Euclide, c'est une référence pour les artistes, pour les ingénieurs. Si vous prenez Végèse, Vitruve, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la même chose. Donc il y a, en fait, l'ingénieur, c'est celui qui travaille dans le monde des ateliers avec les artisans, mais qui est en même temps est un lecteur, c'est-à-dire qu'il prend dans les textes anciens des éléments de la mécanique, des éléments des mathématiques, qui vont l'aider aussi dans sa pratique. Il y a une conjonction des deux influences. Ils vont d'autant plus... alors voilà le Taccola, Mariano di Jacopo, celui qui est l'auteur de Sainte Dorothée à l'enfant Jésus, le peintre. Voilà les planches de... un exemple de planche de ses ouvrages sur les machines, vous voyez à gauche. Donc on est vraiment aussi dans des recherches inventives, hein, pour faire à gauche, faire avancer le bateau. Vous avez aussi les études comme Vitruve sur les proportions du corps humain. On connaît très bien le dessin de Léonard, on appelle l'homme de Vitruve, mais tous ici sont essayés. Donc tous ces ingénieurs italiens sont, enfin, ces artistes ingénieurs ont pu aussi développer leurs activités parce qu'il y a une émulation très forte à ce moment-là, au XVe siècle, dans les cités italiennes. Émulation sur le plan architectural, la beauté des édifices, donc ils ont des commandes, et plus ils sont dans l'originalité, plus ils arrivent à résoudre des problèmes techniques, plus ils vont être recherchés par les princes. Donc ils ont l'exemple type, c'est Brunelleschi, que vous connaissez parce qu'il a construit le dôme de la cathédrale de Florence sans échafaudage intérieur. C'est un véritable exploit grâce à des grues qu'on n'avait jamais construites encore de cette taille. Mais vous pensez que Brunelleschi a eu aussi à résoudre, en tant qu'ingénieur aussi, architecte-ingénieur, la question du transport des matériaux. Il fallait du marbre, on le faisait venir de Carrare, et bien il a fallu qu'ils construisent des barges qui soient capables de supporter le poids, et je dirais à sa bourse défendant, parce que une fois, toute la cargaison est partie au fond de l'Arnaud, et il a dû rembourser le prix des matériaux. Donc, ils cherchent, ils testent, et il faut qu'ils trouvent des solutions parce qu'ils sont pressés par ceux qui commandent. Il y a une consommation de plus en plus importante aussi en Italie, et les produits manufacturés commencent à se développer. Il y a des marchandises diverses auxquelles ces ingénieurs vont aussi répondre, déjà en perfectionnant des machines pour pouvoir produire, notamment dans la métallurgie, et ils sont presque toujours à côté donc des développements urbains ou des développements princiers. Alors on connaît très bien le rôle de ces ingénieurs qui, aux côtés des princes, assurent le succès des fêtes. L'ingénieur, c'est celui qui maîtrise aussi les artifices, donc il maîtrise les trompe-l'œil, mais il maîtrise aussi la poudre qui permet de produire des artifices qui font des fêtes, des réussites. C'est eux aussi qui ont à aménager les jardins. Donc il faut trouver à résoudre la question des fontaines, notamment. C'est pour ça que dès qu'ils ont résolu les questions des fontaines dans les palais des princes, les villes leur demandent aussi, c'est le grand développement urbain aussi en Italie, on leur demande de résoudre la question de l'adduction d'eau. Donc on va voir ces ingénieurs construire des canaux, construire l'adduction d'eau des villes, mais aussi, on s'inquiète des problèmes d'hygiène, c'est eux qui vont tenter de résoudre aussi la question de la saleté, des immondices dans les villes. Ça va être le cas pour Sienne, où ils vont réussir à trouver une solution. Donc, tous, que ce soit pour l'hydraulique, que ce soit pour l'architecture, que ce soit pour la guerre, parce que ces cités italiennes se font la guerre en permanence. En plus, dès la fin du XVe siècle, les Français se montrent un peu trop envieux des richesses italiennes. Ce sont les fameuses guerres d'Italie. Donc, il faut bien que les princes, les cités italiennes aussi, prévoient un système défensif et offensif. Donc les ingénieurs doivent donner, grâce à leur maîtrise des mathématiques notamment, aux princes, des formes de supériorité militaire. C'est pour ça qu'ils vont devenir quasiment indispensables. Alors, quand le bouche à oreille ne fonctionne pas, quand on ne sait pas qu'il y a un artisan, ingénieur qui a telle ou telle qualité, ces hommes se font connaître aussi par l'écrit. Pendant toute la période, c'est un élément très important, c'est l'écriture des ingénieurs. Ils publient, ou bien ils écrivent et ça reste manuscrit, et il y a une circulation manuscrite. Ne sous-estimez pas, pour la période, la circulation manuscrite. 15e, 16e, 17e, le manuscrit circule. On fait des copies. Donc même si un ingénieur n'est pas imprimé, ses écrits peuvent circuler. Et lorsqu'il écrit, toujours il dédicace son ouvrage a une autorité religieuse, ça peut être le pape, ça peut être le prince, ça peut être un capitaine, et c'est un moyen, par la dédicace, de rendre hommage à un personnage, et on vous l'a expliqué, avec le système du patronage, tenter d'obtenir un emploi. Les ingénieurs, tant qu'ils ne s'appartiennent pas à un corps d'État, sont toujours en train de rechercher un employeur. Des fois, ils ont un employeur, mais ils veulent changer. Et c'est par l'écrit. Or, cette multiplication des écrits des ingénieurs se fait aussi dans une forme que Hélène Vérin a appelée la réduction en art, qui est un élément très important que vous devez vraiment retenir pour 15e, 16e, 17e surtout. C'est la mise par écrit des savoirs qui font un état des connaissances à un moment donné. Alors, la réduction en art, c'est ce que Cicéron avait fait, notamment pour l'éloquence. Donc, les hommes de la Renaissance ont retrouvé ce processus qui était fait par les Romains de mettre par écrit à un moment, d'ordonner, classer. Les savoirs sont tellement épars qu'on éprouve le besoin de les classer. C'est la réduction en art. Et vous avez de très nombreux écrits, dont ceux des ingénieurs déjà, dès le XVIe siècle, qui sont des réductions en art. C'est-à-dire qui mettent très nettement par écrit les savoirs dans un domaine donné. Et qui font donc circuler ces savoirs. Alors, dans la particularité aussi, dans ces écrits d'ingénieurs, c'est qu'ils ont parfaitement compris l'importance du dessin. Donc, leurs écrits ont aussi cette particularité d'être des écrits imagés, où l'image occupe une place très importante et le texte est souvent conçu comme un commentaire de l'image. Ce qui veut dire que ces écrits d'ingénieurs s'adressent bien sûr à une aristocratie, peut s'adresser à des commanditaires urbains, mais aussi, par l'image, s'adresse au monde des métiers, à ceux qui ont à résoudre aussi les questions techniques. L'image aidant aussi à la compréhension du texte. Donc, ce qui est l'image de l'ingénieur pour cette période, c'est bien sûr Léonard de Vinci. Je ne vais pas revenir sur le personnage. Il est suffisamment connu et les travaux de Pascal Briouat ont encore son dernier livre ont encore éclairci cette question. Mais bon, tous les ingénieurs ne sont pas, bien sûr, Léonard de Vinci. Mais beaucoup touchent vraiment à de très nombreux secteurs. Il est rare qu'ils soient spécialisés. Néanmoins, il y a quelques figures qui émergent dans cette Italie du XVIe siècle et dont il faut connaître les noms dans leur spécialité. Je veux parler de Niccolò Fontana, que l'on appelle Tartaglia, dit Tartaglia, le corbeau, dit le corbeau, mais son nom c'est Fontana. Bon. Si vous mettez Tartaglia dans une copie ou à l'oral, ça va très bien aussi. Bon, on le verra tout à l'heure, lui ce sont surtout ses calculs mathématiques appliqués à la balistique. Très important pour les chefs de guerre. Autre spécialité de Vannocchio Biringuccio qui s'est consacré aux arts du feu. Donc un ouvrage, Pyrotechnie, qui rassemble le savoir, donc en 1540, sur la minéralogie, sur la métallurgie, la sidérurgie, la céramique, etc. Tous les arts du feu. Donc vous voyez, ça c'est aussi un exemple de réduction en art. Donc, ces ingénieurs du XVIe siècle sont donc d'abord et avant tout des Italiens. Néanmoins, se passent des choses dans les autres pays européens. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les Italiens, même si c'est eux qui sont les plus nombreux et si c'est eux que l'on recherche dans toute l'Europe. Dans l'Empire, on pourrait parler de Albrecht Dürer, que vous connaissez sans doute pour ses gravures. Vous avez ici Le Chevalier, le Diable et la Mort. Hein. Bon, c'est cet excellent graveur qui a dessiné aussi le rhinocéros, hein, une gravure sur bois, alors qu'il n'a jamais vu, mais le rhinocéros circulait en Europe. Un Africain l'avait fait. Non, c'est un Indien. C'est un chef indien en avait fait cadeau au roi du Portugal, qui a ramené le rhinocéros, et le rhinocéros a circulé en Europe. Dürer a dessiné le rhinocéros, il a proposé aussi un arc de triomphe, vous voyez, pour Maximilien, mais il a aussi écrit sur instruction pour la mesure à la règle et au compas, instruction sur la fortification des villes, des bourgs, etc. Donc il a une pluralité aussi de compétences. Du côté français, vous connaissez sans doute Bernard Palissy pour ses arts du feu, ses céramiques magnifiques, et aussi il prodigue des conseils sur la fortification. Hein. Il n'est pas seulement un spécialiste de la céramique. Philibert Delorme, avant de réaliser les trompes décoratives du château d'Annay, a écrit un traité sur la stéréotomie, c'est-à-dire l'art de tailler les pierres selon des règles mathématiques. Donc, même si dans tous les pays européens à ce moment-là, on recherche les ingénieurs italiens, on les invite, les artisans qui maîtrisent les mathématiques dans les autres pays vont aussi intervenir, notamment dans l'hydraulique, et vous pensez au château de la Loire, où là ce sont aussi des ingénieurs et des ingénieurs italiens, mais des ingénieurs français qui ont notamment travaillé au jardin de Diane à Chenonceau. Mais il y a aussi tous ceux qui travaillent sur l'assèchement des marais. C'est le travail des ingénieurs. Vous avez les marais des Fens en Angleterre, sous Henri VIII. Mais tout le mouvement de poldérisation aussi des Pays-Bas. Donc c'est en fait une multitude, on dirait, de possibilités. Et pour l'Empire, il faut vraiment retenir un nom, même si vous n'avez pas l'Empire au programme, c'est Georges Agricola, 1494-1555, qui a en fait écrit un De Re Metallica, qui a été publié à titre posthume en 1556. Agricola est en fait un médecin dans la grande ville minière d'Europe centrale qui est Chemnitz, et il va, parce qu'il soigne les mineurs aussi, mettre par écrit tout le vocabulaire de la mine. Et surtout, il inventorie tous les procédés qui sont utilisés depuis le XVe siècle, et il fait connaître l'ensemble des machines que l'on utilise dans les puits de mine, notamment ce qu'on appelle les machines d'exor, c'est-à-dire qui servent à pomper l'eau des galeries. Vous en avez un exemple dans son livre. Mais il explique aussi les moyens utilisés pour transporter les charges, le minerai, hein, qui est extrait avec beaucoup moins donc de peine, le fait qu'on utilise des rails, qu'on utilise des wagonnets. Et il fait en quelque sorte de l'art des mines, c'est-à-dire à la fois la prospection, l'exploitation, l'exor, la machinerie, la préparation du minerai, la fusion des métaux, un art extrêmement important. Donc en fait, là aussi c'est une réduction en art, hein, des savoirs relatifs à la mine, qui, ouvrage qui a été écrit en latin, mais qui a été très vite traduit en allemand, plagié en espagnol. Et les techniques qui sont décrites dans le Dere Metallica ont été importées en France, dans le Berry, dans les Midlands en Angleterre. Et ce sont des spécialistes normands qui ont introduit dans le Sussex les premiers hauts fourneaux anglais, hein, en suivant. Donc, c'est différentes descriptions. Donc, on a dans ce domaine des techniques minières, il faut voir une zone très importante que l'on appelle en fait les trading zones, des zones d'échange importantes entre les praticiens et les savants. Pour réfléchir à la question, il faut que vous pensiez aussi où se trouvent ces zones d'échange, hein, entre techniques et savants. Vous avez les zones minières, vous avez les arsenaux, vous avez les cours princières aussi, où tout le monde peut être en contact. Et au XVIIe siècle, vous aurez les manufactures, hein, où savants et techniciens sont en contact et peuvent échanger. Donc, les techniques minières, c'est aussi très important, parce qu'il va y avoir, là nous sommes bien sûr dans l'Empire, et où très tôt s'est développée l'exploitation minière, notamment avec le capitalisme des fougueurs, hein, on les connaît bien avec l'élection, leur rôle dans l'élection de Charles Quint, ce sont les mines du Harz, les mines du Tyrol. Mais pour la partie que vous avez au programme, n'oubliez pas qu'en Wallonie, près de Namur, on a aussi, c'était un territoire bourguignon en 1421, c'est devenu un territoire Habsbourg à partir de 1482, on a développé aussi l'exploitation minière et le procédé de transformation et des forges d'affinerie avec de très gros marteaux hydrauliques. Donc c'est l'innovation, l'utilisation de ces marteaux hydrauliques qui finalement a essaimé dans l'ensemble de l'Europe du Nord-Ouest. Il y a, je voulais parler aussi d'une principauté, la principauté de Liège, où là l'exploitation minière a été développée à l'initiative du prince évêque de Liège. 1582, le prince évêque de Liège, Ernest de Bavière, promulgue un édit, l'édit de conquête, qui attribue les houillères noyées à qui saurait les démerger. Cet édit a attiré beaucoup d'inventeurs et a fait de Liège un pôle, on dirait, technologique. Les machines d'exor pour pomper l'eau se sont multipliés, avec notamment la création de pompes aspirantes et refoulantes. C'est devenu donc un pôle attractif pour tous les techniciens du secteur minier, à cause des mines de houille, à cause de l'hydraulique minière, à cause de la sidérurgie. En plus, le prince de Liège a eu l'opportunité d'adopter la neutralité politique et confessionnelle, ce qui fait que tout le monde pouvait venir acheter les matériaux ou venir s'inspirer des techniques, qu'ils soient catholiques ou protestants. Donc on a, en fin du XVIe siècle, vous voyez, toujours une pluralité de compétences pour l'ingénieur, ce qui est caractéristique, c'est qu'en fait, ils circulent. Donc, leur savoir-faire circule aussi dans l'ensemble de l'Europe. Et ils ont aussi, c'est le alors voilà aussi une des planches hein, d'Agricola. Il y a des planches qui sont merveilleuses dans ce traité, qui peut faire très beaux documents pour les commentaires de documents. Vous en avez ici. Bon, j'ai pas le temps de les commenter. Mais 15e, 16e siècle, vous retenez circulation des hommes et des savoirs. Alors, circulation des ingénieurs miniers allemands qui vont aller dans toutes les autres parties européennes, circulation des ingénieurs italiens. Leur savoir reste toujours mathématiques, dessins, machines. Et les machines commencent à prendre tellement d'importance qu'on a un type de publication qui est extrêmement intéressant à la fin. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, c'est un genre d'édition particulier que l'on appelle les théâtres de machines. Le must dans ce type de production, c'est celui de Jacques Besson, Théâtre des instruments et machines, publié à Lyon en 1569. Donc, cet ouvrage a largement inspiré Descartes, hein, il l'a dit. Besson est un professeur de mathématiques protestant, et voilà un exemple des planches où vous avez une machine, la figure septième ici, et proposition de l'auteur à côté, avec une proposition pour la construction de la machine. Alors, on a tenté de réaliser, après, hein, dans les siècles postérieurs aussi, les machines proposées par Besson. Tout le monde dit, c'est impossible, on ne peut pas les faire, il manque toujours quelque chose, elles ne peuvent pas fonctionner. Mais ce n'était pas du tout la démarche de Besson. En fait, je vous rappelle que l'ingénieur, c'est celui qui est capable d'avoir du génie et de l'ingénium. Donc, il donne une idée, fait une proposition de machine. Il commence à la décrire, mais il laisse à l'ingénieur lecteur l'adaptation nécessaire pour que la machine puisse fonctionner. Donc, ce n'est pas un livre de machine qui expliquerait comme... Le descriptif, quand vous achetez un meuble Ikea où on vous dit, voilà, vous prenez la première pièce, la deuxième ou la troisième, il donne simplement hein, l'intérêt de cette machine que l'on pourrait construire de telle et telle façon, mais c'est à l'ingénieur technicien après de trouver l'invention pour que ça devienne véritablement une machine. Alors, un autre exemple, c'est un Italien, mais un Italien qui a été au service... au service d'Henri IV, Agostino Ramelli. Il a eu le titre à partir de 1601 de capitaine ingénieur pour le roi Henri IV et qui a commis un ouvrage en 1588 qui s'appelle hein, Les diverses et artificieuses machines du capitaine Agostino Ramelli. Et vous avez là une machine pour lire. Donc, je vous soumets la machine. Son idée, c'était qu'on pouvait lire plusieurs livres en même temps. Donc, effectivement, vous pouvez commencer une page sur un livre, faire tourner la machine et vous suivez dans un autre livre, une autre page, etc. Bon. Voilà voyez à quel point ces hommes sont marqués, obsédés en quelque sorte par les machines. C'est leur univers, c'est extrêmement important. Là, c'est Ramelli toujours, c'est une machine pour améliorer hein, le puisage de l'eau dans un puits. Donc, je voudrais passer maintenant... toujours dans cette... on est à la transition, fin XVIe et XVIIe siècle. La nécessité de trouver... les meilleurs moyens de transport pour les marchandises, notamment pour les hommes de guerre, pour les munitions. ont fait que les ingénieurs se sont penchés sur la question de l'écluse. Sur les cours d'eau, en général, il y avait des moulins. Les biefs qui devaient, donc les zones comprises entre deux moulins, qui étaient construits à partir du XIIIe siècle, devaient permettre, en fait, par ouverture de porte, la navigation fluviale. C'est là que les ingénieurs... Alors, c'est intéressant parce qu'on dit que ce sont les Italiens, mais on trouve dans les Pays-Bas aussi, pratiquement au même moment, les fameuses écluses et assas. Donc, vous voyez celle d'Utrecht ou celle du traité italien de Zonca de 1606. On est dans la même réalisation technique. Ça veut dire que c'est une navigation par éclusée et dans les Pays-Bas, comme en Italie, notamment dans la partie nord, la zone du Pô, on a besoin de circuler sur les cours d'eau. Et donc, on a trouvé la solution technique qui permettait quand même d'avoir des moulins et d'avoir, donc, au niveau des moulins, d'avoir ces sas avec porte éclusière qui permettaient donc aux bateaux de passer. Alors ça, c'est une petite remarque au passage. Il y a forcément transfert de connaissances, transfert dans les techniques, mais parfois on s'aperçoit que dans des endroits différents de l'Europe, eh bien on arrive pratiquement aux mêmes solutions techniques et donc aux mêmes innovations. Alors, au XVIIe siècle, qu'est-ce qui se passe ? Ce que vous devez retenir, c'est qu'on commence à avoir la constitution de corps d'ingénieurs nationaux, entre guillemets. Hein, des corps d'ingénieurs français, des corps d'ingénieurs espagnols, des corps d'ingénieurs des Pays-Bas, aussi bien des Provinces Unies que des Pays-Bas méridionaux. Donc c'est la constitution en corps. On passe d'ingénieurs individus qui se loue en quelque sorte à une reconnaissance par les pouvoirs politiques de la nécessité d'avoir à son service des ingénieurs qu'il faudra, alors on ne va pas nécessairement les former, mais au moins on va les rétribuer pour les avoir sous la main chaque fois que ce sera nécessaire. Et ce qui a poussé à cette organisation, c'est surtout le besoin d'ingénieurs militaires au XVIIe siècle. Je vous rappelle que le XVIIe siècle est surnommé le siècle de fer. Guerre incessante dans toute l'Europe. Que ce soit la fameuse guerre de 30 ans, guerre européenne, que ce soit les guerres de Louis XIV, hein, celui qui a confessé avoir trop aimé la guerre. La guerre est omniprésente. Donc, on a surtout, dans les différents États, on a surtout besoin d'ingénieurs militaires. Ça, c'est un point très important. Donc, c'est ce besoin d'ingénieurs a fait notamment que en France va être créé un corps, le corps des ingénieurs du roi. Alors c'est à partir du règne d'Henri IV et à l'initiative du surintendant des fortifications, je veux parler de Sully, qu'un grand règlement est pris en 1604 pour organiser le recrutement, le financement et les fonctions de ces ingénieurs. Alors, n'imaginez pas au début du XVIIe siècle que Henri IV, par exemple, disposait d'un corps d'ingénieurs conséquent. Il y en avait six. Mais dans les premières attributions, c'était avant tout donner un espace géographique aux frontières à un ingénieur qui aurait donc la responsabilité de la défense de cette partie du territoire. C'est comme ça qu'au début, Henri IV et Sully ont conçu le recrutement des ingénieurs. Un ingénieur pour le nord, un ingénieur pour l'est, un autre pour la frontière méridionale, etc. Alors, c'est devenu très, très important pour les différents souverains. Et pour les Français notamment, on va avoir une organisation qui va progressivement être de plus en plus performante jusqu'au règne de Louis XIV où les ingénieurs vont pouvoir, en 1691, quand une direction des fortifications a été créée sous la direction de Michel Lepelletier de Souzy, on avait en activité 272 ingénieurs. Donc ça commence à devenir un corps important. Alors comment comprendre cette organisation? Quelques mots. Vous gardez toujours présent à l'esprit que quand on parle d'ingénieurs militaires, l'ingénieur militaire, c'est celui qui doit donner les moyens d'avoir la supériorité en cas de compétition guerrière, en cas de guerre. Donc il peut le faire en trouvant les solutions pour améliorer la puissance de feu, pour répondre à la puissance de feu, mais je le verrai tout à l'heure, hein, par la fortification. C'est celui qui peut fabriquer des machines de guerre, mais le tout, et ça c'est très important, dans une économie de moyens. C'est-à-dire que dès le départ, quand il y a constitution de ces corps d'ingénieurs, ils ont à réfléchir à comment assurer la meilleure défense, hein, ou le succès en temps de guerre avec les moyens les plus réduits, en sachant que ça coûte de toute manière très cher. Donc, l'ingénieur, c'est celui qui va avoir aussi à faire les calculs, le rapport entre dépenses et défense. C'est très important pour comprendre le rôle aussi d'une partie des mathématiques dans la culture des ingénieurs. Donc, le grand règlement, nous le devons à Sully. À droite, bien sûr, et vous reconnaissez Henri à gauche. Donc, lui, le premier Bourbon, comme Louis XIV, hein, son petit-fils, a beaucoup aimé la guerre. Hein. Il a été assassiné, mais il partait aussi, hein, faire la guerre contre les Espagnols en 1610. Donc, les ingénieurs avaient vraiment du travail. Mais qu'est-ce que un ingénieur aussi, même dans un corps de métier, ne résiste pas au plaisir de vous montrer ces planches, hein, qui datent de la fin du XVIIe siècle, hein, de Nicolas Larmessin, qui l'intitule « Les costumes grotesques ». C'est les costumes grotesques des métiers. Et le métier d'ingénieur est celui qui est représenté à gauche. J'ai mis en parallèle le métier de maçon pour voir aussi les différences. Mais vous voyez là, au titre ingénieur, c'est bien un ingénieur militaire qui est représenté sur le dessin. Omniprésents sont les dessins des fortifications, des différents plans. À l'arrière, vous voyez les tranchées, qui sont les tranchées d'attaque pour attaquer la ville qui est à l'arrière-plan. À la main, il a un maillet et des piquets. Et vous verrez à quoi peuvent servir ces maillets et piquets. Hein. C'est mettre le plan sur... Passer du dessin, en fait, à la construction. On reproduit à une autre échelle donc le plan de la place forte qu'on a dessiné, et on plante les piquets et des cordes, on tend des cordes pour dessiner avec ces cordes et ces piquets le plan de la future forteresse. Donc tout ce qu'il a au niveau des jambes, c'est ce que l'on met aussi donc autour d'une place forte pour empêcher dans les fossés l'avance de l'ennemi. Et ce qu'il a sur la jambe gauche, c'est un gabion. Donc c'est une sorte de panier en osier que l'on remplit de pierres, et on se protège derrière cet alignement de gabion des différents tirs, notamment quand on est dans la tranchée. Donc c'est bien là l'image que l'arme saint a d'un ingénieur fin XVIIe siècle, c'est l'ingénieur militaire. C'est celui qui est capable de défendre une place forte, de construire une place forte, d'attaquer une place forte. Bon. Le maçon, au contraire, vous voyez, hein, il est avec ses outils tels qu'on peut les connaître, même si l'ingénieur, parfois, est obligé de jouer au maçon, hein, quand il surveille notamment les chantiers. Mais... Comment, déjà, il y a deux types d'ingénieurs, on pourrait dire. Et c'est Vauban qui lui-même est ingénieur. Alors, pour être ingénieur du roi, il faut obtenir un brevet royal. C'est-à-dire un acte officiel qui vous donne le titre d'ingénieur et surtout vous assure le paiement annuel, souvent annuel, des monuments qui doivent vous permettre de vivre. Donc, sont appelés ingénieurs du roi ceux qui sont titulaires de ces brevets. Néanmoins, notamment en matière militaire, on a tellement besoin d'ingénieurs à cause des multiples guerres qu'il peut y avoir des ingénieurs, je dirais occasionnels, ce qu'on appelle les ingénieurs volontaires, c'est-à-dire des militaires, peut-être des officiers, notamment de l'infanterie, qui se déclarent volontaires au moment d'une guerre pour faire fonction d'ingénieur. Alors, l'ingénieur qui participe à un siège, qui participe à une guerre, Vauban l'appelle l'ingénieur au poil, hein, celui qui va sur le terrain. L'autre ingénieur, ça n'empêche pas qu'il puisse aller aussi sur le terrain, mais c'est celui qui est capable donc d'avoir la plume et donc de faire un projet d'amélioration d'une fortification, projet d'une canalisation, un projet de construction de digues, de moulins, etc., qui est capable aussi, deuxième temps important, de faire le devis. Alors, l'ingénieur, vous voyez, doit... Lorsque c'est un ingénieur qui est capable donc de faire de l'architecture militaire, il doit rédiger un projet, il doit bien sûr dans le projet dessiner des plans, c'est un dessinateur, donc des plans en respectant quand même une échelle, et ensuite il fait le devis, c'est-à-dire qu'il évalue le coût de chacune des parties de son projet. Ça veut dire qu'il sait toiser. Des fortifications, c'est des mètres linéaires de maçonnerie. Donc, il doit mesurer combien il faut de briques si on a de la brique, combien il faut de pierres si on a des pierres, et quelle dimension des pierres ou des briques, bien sûr. Le coût, combien coûte ce matériau, combien il faut de mortier, combien il faut de sable, combien il faut de chaux, etc., etc. Il évalue dans le devis le prix du travail. Ça veut dire que l'ingénieur est complètement impliqué dans la vie économique du lieu où il fait le projet. Il doit connaître le coût de la main-d'œuvre. Il doit connaître le coût de la charpente. Il doit connaître le coût de la plomberie, etc., etc. Pour faire un devis au plus près des coûts. Il doit ensuite rédiger un mémoire. Et ça, c'est important aussi pour, je dirais, le savoir sur le territoire. Un ingénieur doit toujours présenter un mémoire de type géographique, hein, c'est-à-dire qu'il aura reconnu la campagne, les villages, tout autour de la place où il doit, la place forte où il doit travailler. Et il la décrit. Il décrit la nature du sol. Pensez bien que travailler sur du roc ou travailler sur du sable, construire sur du sable ou construire sur du roc, ce n'est pas la même chose. Donc il doit se faire d'une certaine façon aussi minéralogiste pour savoir si le terrain va supporter tel ou tel poids, etc. Donc il fait une description aussi des activités des hommes. C'est en travaillant sur ces mémoires des ingénieurs qui sont actuellement aux archives de Vincennes, aux archives du génie à Vincennes, aux archives de l'armée, que l'on a des descriptions des campagnes, notamment des campagnes françaises de cette époque, avec description des forêts, des campagnes, des villages et des remarques à pas piquer des vers sur le naturel le naturel de la population. Est-ce qu'ils sont paresseux, actifs, etc., etc. Des évaluations, donc des richesses aussi, hein, c'est ce que l'on trouve dans ces mémoires. On leur demande aussi d'être cartographes. Ils doivent être capables de lever une carte. Certains y arrivent très bien, d'autres un peu moins bien. Dernière action de l'ingénieur, une fois que son projet et que son devis a été adopté, c'est l'ouverture du marché public. Appel d'offres. Il doit, avec l'intendant en France, vérifier que le marché public se passe bien, et en général c'est à la bougie et au moins 10 ans, hein, c'est-à-dire que le devis, par exemple, pour les charpentiers, on va avoir des charpentiers du pays qui vont dire ben, « Nous, on prend le marché, on veut bien faire toute la charpente, etc., etc., pour tel prix. » Puis il y en a un autre qui vient d'une autre province et qui dit ben, « Moi aussi, je veux bien faire. » Bon. Le marché public à l'époque, c'est moins 10 ans, donc on prend le moins cher, hein, et à la bougie, tout est fini quand la bougie est éteinte. On peut surenchérir tant que la bougie n'est pas éteinte. Bon. L'ingénieur est là pour vérifier que les entrepreneurs qui obtiennent le marché ont des compétences et ensuite vont bien appliquer les termes du marché. Ce qui veut dire qu'ils sont souvent soupçonnés de collusion. C'est toujours le problème dans les marchés publics, entre les entrepreneurs et ceux qui font les propositions. Donc voilà les images générales qui concernent ces ingénieurs. Mais bien sûr, celui qui au XVIIe siècle va jouer un rôle très important, après le chevalier de Clerville, qui a été son maître, c'est Vauban. Donc quelques mots, parce que j'en reparlerai plutôt pour la fortification, mais parce qu'il a organisé le service des ingénieurs. Donc Vauban, 1633-1707, il obtient un brevet d'ingénieur. Alors, c'est un militaire. Il a commencé sa carrière dans la cavalerie, puis dans l'infanterie. Et il choisit, à 22 ans, de prendre la branche technique de l'armée, je dirais, en devenant ingénieur. Il obtient le brevet d'ingénieur, il a 22 ans. Et c'est ce qui va complètement marquer sa carrière. Il va avoir la responsabilité, à la mort du chevalier de Clerville, du service des fortifications. Il est commissaire général aux fortifications en 1678. Ça veut dire que c'est le chef technique des ingénieurs militaires. Avec cette difficulté française, parce que je n'ai pas parlé de la marine, mais le système français fait que il y a un secrétaire d'État à la marine, et vous le connaissez, c'est Colbert, qui, lui, gère les ingénieurs de la marine. Son collègue, et non pas néanmoins ami Louvois, lui est secrétaire d'État à la guerre. Et il gère les ingénieurs militaires de l'armée de terre. Donc, quand on s'appelle Vauban et qu'on est commissaire général des fortifications, on ne s'occupe pas que des fortifications et des ingénieurs qui travaillent sur les frontières terrestres. On s'occupe aussi des frontières maritimes. Hein. On craint les débarquements des ennemis. Donc, avoir deux chefs, hein, c'est souvent un peu compliqué, deux chefs qui ne s'aiment pas et qui donnent des ordres un peu contradictoires. Donc, commissaire général des fortifications, il a au-dessus de lui deux secrétaires d'État qui s'arrangent en fait pour vraiment lui compliquer la vie, l'un l'envoyer en Bretagne quand l'autre lui dit d'aller dans les Alpes, par exemple. Hein. Donc, à qui obéir? Bon, vous voyez là, difficulté, c'est le système administratif français de l'époque. Donc, comme commissaire général des fortifications, que doit faire Vauban? Il doit un peu distribuer le travail aux ingénieurs militaires, les répartir géographiquement dans les différentes fortifications. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, bien, c'est lui qui commande aux ingénieurs lors de l'attaque des places, lors des sièges. Et donc, de ce fait, c'est lui qui s'occupe de leur avancement de carrière, de leur rétribution, et qui écrit souvent au roi qu'on les laisse dans la misère, qu'ils vont déserter, qu'ils vont passer à l'ennemi. Et c'est effectivement ce qui parfois arrive. Donc ça, c'est le premier aspect. Voyant parfois l'incompétence de certains ingénieurs, Vauban va demander qu'il y ait un examen pour devenir ingénieur, et ce, à partir de 1691. Donc, quand il y a une direction générale des fortifications et qu'on n'a plus ce problème de la marine ou de l'armée de terre, il n'y a plus qu'une seule direction des fortifications, tant pour la marine que pour l'armée de terre. Donc, un examen, et là, on peut dire que Vauban s'inspire de Colbert. Colbert avait instauré une sorte d'examen pour les ingénieurs de la marine, où on vérifiait leur niveau de mathématiques, leur capacité de dessin, ce qu'ils connaissaient en artillerie et bien sûr ce qu'ils connaissaient en navigation. Donc, en 91, c'est surtout mathématiques, dessins, qui sont les bases de l'examen, qui vont être organisées par Vauban, et les examinateurs seront des professeurs de mathématiques de l'Académie des sciences qui vont vérifier ce niveau-là. Donc l'examen a été organisé à peu près pendant 3 ans, mais la guerre reprenant, on avait tellement besoin d'ingénieurs qu'on les prenait sans examen. Alors l'examen, c'est une chose. Il y a une autre partie. Une fois qu'on avait l'examen théorique, il fallait faire 2 ans de noviciat. Donc apprendre auprès d'un ingénieur-chef le métier sur place. Donc c'était une organisation qui pouvait être compréhensible à l'époque, et c'est donc les Vauban à cette occasion a été obligé de préciser les qualités, les bonnes qualités d'un ingénieur. C'est bien sûr connaître ce que vous disiez, le dessin, l'architecture, la géographie, l'arithmétique, la géométrie bien sûr, mais aussi avoir la capacité de, il disait, de démêler le fort du faible. C'est-à-dire, finalement, être capable de prendre la bonne décision après avoir fait l'évaluation des inconvénients et des avantages d'une situation. C'est en cela que se résume en général l'activité finale de l'ingénieur. C'est cette capacité à anticiper et à optimiser. C'est l'optimisation que l'on demande à l'ingénieur. Donc prendre la bonne décision après avoir pesé, grâce aux mathématiques notamment, grâce à une bonne connaissance du terrain et des situations, la bonne décision qu'il faut prendre en termes de défense, que ce soit en pleine guerre ou que ce soit en termes de fortification. Donc l'opération intellectuelle, vous voyez, c'est démêler le fort du faible, et c'est là que certains ingénieurs de la fin du XVIIe siècle disent que les mathématiques sont nécessaires mais ne sont pas suffisantes. C'est pas seulement avec les mathématiques que l'on prend la bonne décision. Il faut aussi avoir ce jugement et cette qualité intellectuelle d'anticipation et d'optimisation. Donc mathématiques, oui, c'est indispensable, on ne peut pas être ingénieur sans mathématiques, mais ça ne suffit pas. Il y a le petit coup de génie de plus. Donc c'est dans cette capacité de gérer l'anticipation et l'optimisation. Finalement, dès qu'on a un corps d'ingénieurs, il va y avoir une machine administrative qui va se mettre en route et qui va faire que les ingénieurs vont devoir s'adapter aussi à une normalisation générale, adopter les normes, notamment des normes de construction, des normes techniques. Il y a des règlements pour dire comment on fabrique le mortier, comment on doit mettre les souterrains, mettre les ciments, c'est le terme qu'ils utilisent, ciment qui n'est pas approprié, mais c'est le terme qu'ils utilisent, pour les mettre à l'abri des bombes notamment. Donc il y a normalisation, ce qui veut dire que sur l'ensemble du territoire, du territoire français, on finit par avoir, par ce travail des ingénieurs, des normes de construction technique, grâce à une circulation les inventions des artisans techniques, par exemple, des Pyrénées-Orientales, parce que le matériau qu'ils utilisent, c'est la brique. Ils trouvent des techniques de construction que ne connaissent pas nécessairement ceux qui sont dans le nord de la France et qui utilisent aussi la brique comme matériau. Déjà, ils n'utilisent pas la même brique. Donc, c'est pas facile de faire des devis uniformes pour que le roi prenne sa décision avec des matériaux qui ne sont pas uniformes. Donc, première chose, Louvois dit, la brique, elle fera telle dimension. Donc, on va uniformiser, vous voyez, ce qui jusque-là était des pratiques locales de construction. L'intervention de ces ingénieurs militaires va jouer un très grand rôle dans la normalisation des techniques de construction. Dès qu'il y a une forme de nouveauté, elle va circuler via ces ingénieurs. Et donc, on peut considérer qu'au XVIIe siècle, je vous montrerai la carte tout à l'heure, c'est pratiquement l'ensemble de la France dans ses frontières qui est un chantier de construction. Plus de 320 fortifications, donc dans toutes les frontières. Donc les ingénieurs sont des vecteurs, des ingénieurs militaires, des vecteurs très importants de circulation des techniques. Techniques militaires, techniques de construction, techniques aussi pour résoudre les problèmes d'hydraulique. Pourquoi ? On va le voir. Parce que l'eau joue un rôle très important dans les systèmes de défense. Donc, c'est ce que l'on va voir, notamment avec l'exemple d'autres ingénieurs que les ingénieurs français. Ah oui, le dernier point, je voulais vous le dire parce que je sens que je vais l'oublier. Parmi ces ingénieurs militaires, ceux qui avaient le plus de doigté et de compétences, on pourrait dire, pour faire des cartes, se sont attelés à une tâche commandée par le roi, c'est celle de faire des maquettes de place, c'est ce que l'on appelle les plans reliefs. Ça commence à partir de 1665, ça va continuer après jusqu'au XIXe siècle, mais c'est surtout au XVIIe qu'il y a eu en fait trois ingénieurs qui se sont spécialisés dans la confection de ces maquettes qui donnent la place. Donc vous pouvez avoir par exemple Strasbourg et toute la campagne autour de Strasbourg, puisque ce qu'on représentait, c'était tout ce qui était à portée de canon. Portée de canon fin du XVIIe, c'est 600 mètres. Donc vous avez tout autour de la place le détail avec des matériaux nobles, vous avez du bois, du coton, de la soie, représenter les cultures, représenter les arbres, représenter les chemins, représenter les cours d'eau, représenter les ponts, les moulins, les constructions. Et je vous invite, quand vous allez à Paris, à aller voir le musée des plans-reliefs, qui malheureusement est complètement coincé en haut, dernier étage du musée de l'armée aux Invalides, où il n'y a pas suffisamment de place pour exposer, c'est une catastrophe, exposer tous ces plans-reliefs, qui sont à l'échelle 1/600 et qui sont une merveille, vraiment une merveille. On nous a envié cette collection qui s'appelle la collection du roi et qui était exposée au XVIIe siècle dans la galerie du bord de l'eau au Louvre. Ensuite, c'est déplacé. Actuellement, c'est dernier étage des Invalides. Mais allez-y, quand vous voyez Brest, par exemple, alors que Brest a été détruit, vous avez un état de Brest, notamment au XVIIIe siècle, qui est absolument splendide. Tous les reliefs de montagne aussi sont magnifiquement représentés. Bon, ça, c'est... Alors, deuxième sujet qui fâche, non seulement c'est au dernier étage, enfin maintenant il y a l'électricité, donc ça va, il fut un temps où il n'y avait qu'une ampoule. Deuxième, lorsque M. Monroy a été Premier ministre, il a décidé que toutes les places du Nord devaient partir dans le Nord de la France, et ce sont les places qui sont exposées au Musée des Beaux-Arts de Lille. Bon, en œuvre pour que la collection soit de nouveau réunie, mais c'est un peu compliqué parce qu'il faut un local pour les accueillir, hein, sachant que tout n'est pas exposé. Bon, donc vous retenez aussi cet aspect spécifique. Je reparlerai un peu des ingénieurs cartographes, mais il y a cette collection dont il faut parler parce que c'est vraiment aussi une réalisation matérielle technique qui est tout à fait remarquable. Le premier souverain à l'avoir visité sous la régence, c'est Pierre Ier de Russie. À son deuxième voyage en Europe, le régent, ça, Louis XIV n'aurait jamais montré la collection à un souverain étranger. C'était quand même secret défense. Pierre Ier de Russie a eu là droit à la visite des plans-reliefs. Bon, ça, c'était le régent Philippe d'Orléans. Donc, je vous encourage, c'est quand même une merveille. Deuxième, alors, en Europe, au même moment, on a aussi quand même des ingénieurs qui vont se placer plus du côté des savants. Je vous dis, l'ingénieur, il est à la fois technicien et savant. Mais il y a certains de ces ingénieurs qui ont quand même plus une figure de savant et qui ont largement participé à ce que l'on appelle, entre guillemets, hein, je mets bien entre guillemets parce que c'est pas la question, la révolution scientifique du XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment appliqué la méthode hein, telle que Descartes a pu la décrire. Dans le discours de la méthode, ils défendent le principe de la rationalité et ils sont toujours dans une forme de réduction en art dans leurs écrits, c'est-à-dire faire un état, le point des connaissances scientifiques et techniques. Première figure qu'il faut connaître, mais je crois que Pascal Briouat vous en a parlé, hein, donc je vais aller vite. C'est Simon Stévin, 1548-1620, commis d'un marchand à Anvers, employé aux finances du port de Bruges. Il va, comme beaucoup, alors en général, ces ingénieurs font le voyage en Italie, comme les artistes, lui, non. Il va voyager en Europe centrale et en Europe de l'Est, donc il va aller jusqu'en Pologne, en Prusse, revenir par la Suède, le Danemark, et lorsqu'il revient à Leyde en 1581, il va non seulement publier un livre sur le calcul des intérêts, bon, c'est normal, il est employé aux finances, il était marchand, hein, donc là, on est dans les mathématiques marchandes, calcul sur l'intérêt, et il va ensuite s'inscrire à l'université de Leyde. 1581, vous voyez, c'est pas un jeune étudiant, hein, il arrive quand même à un certain âge pour faire ses études S.A.R. Et en fait, tout en faisant ses études S.A.R., il étudie les machines, et notamment les machines qui sont conservées dans les arsenaux, et il se souvient des arsenaux de la mer du Nord. Donc, il va très vite publier des ouvrages sur l'hydrostatique, sur l'arithmétique, en 1585, sur la statique ou l'art de peser. Vous voyez, c'est un véritable savant, donc il publie des écrits de type scientifique. Et il va réaliser aussi une machine. Je pense que c'est ce que Pascal Briouat vous a présenté, hein, c'est son fameux char à voile qui a pu aller jusqu'à 40 km/h, hein, donc beaucoup plus vite que les chevaux. En tout cas, c'est pas ce qui m'intéresse nécessairement ici, c'est que Stévin a beaucoup écrit donc sur les mathématiques. Tous ces écrits mathématiques ont été rassemblés par un Français, Albert Girard, qui les a publiés en français parce que, en général, Stévin publiait en néerlandais, pas en latin, parce que c'était un grand défenseur de la langue néerlandaise, donc du bas allemand, hein, et il considérait qu'il fallait trouver tous les termes scientifiques et techniques en néerlandais, donc il fallait traduire des termes qui existaient en italien ou en français, les traduire en néerlandais, et donc il publiait en néerlandais ce que le public français en général ne pouvait lire. Donc c'est l'œuvre de Girard de publier en français les œuvres mathématiques de Stévin, ce qui le fait connaître vraiment en France. Stévin, donc, qui a été enseigner les mathématiques au Statoudère, on a dû vous en parler, je ne veux pas trop insister, c'était Maurice de Nassau, a créé surtout, et c'est là que ça m'intéresse, il a obtenu de Maurice de Nassau, donc, qui est le chef de guerre des Provinces Unies, de créer une école pour ingénieurs, une école de mathématiques pour ingénieurs, à Leyde, en 1600. Donc c'est rattaché à l'université mais séparé de l'université, et c'est Stévin qui prévoit tout le cursus de cette école pour apprendre, et ça c'est la conception je dirais des Pays-Bas. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui doit savoir bien arpenter, hein. Donc ils ont des cours d'arpentage, de mesure. C'est vrai qu'un ingénieur doit savoir bien arpenter. On leur apprend les mathématiques aussi pour la navigation. Les mathématiques qui servent aussi dans l'architecture. Donc, il a conçu tout à fait un enseignement pour, j'allais dire, fabriquer des ingénieurs qui répondent aux besoins des Provinces Unies, c'est-à-dire des ingénieurs qui ont aussi une très bonne maîtrise de l'hydraulique. La question de l'hydraulique est essentielle aux Pays-Bas, et ce que Stévin a fait aussi, c'est qu'il a conçu un système de défense par écluse. Et il a publié un ouvrage qui s'appelle, hein, « La défense par écluse ». Donc ça consiste, vous l'imaginez bien, à capter l'eau dans un endroit en général autour d'une place forte, voire dans une place forte, construire des sas, des écluses, et libérer l'eau quand l'ennemi arrive. C'est un système de défense inondé. C'est ce que les les habitants d'Amsterdam, oui, ont fait quand les armées françaises sont arrivées, sont approchées d'Amsterdam en 1672. Hein. Jusque-là, l'armée française, avec Louis XIV en tête, était victorieuse. Arrivée à l'approche d'Amsterdam, ils ont rompu les digues et inondé complètement le pays. Bon, ça veut dire une ruine sur le plan agricole pendant au moins 2-3 ans, mais les Français n'avaient plus qu'une chose à faire, c'était repartir. Bon. Donc c'est les Hollandais qui ont développé aussi tout ce système, parce qu'ils ont l'habitude de faire des digues et des polders, donc gagner sur l'eau, qui ont développé ce système de défense. Et Stévin l'a complètement aussi théorisé. C'est un aspect important. Prévoir donc tout un système de moulins aussi qui entrait dans la défense. Autre ingénieur, Cornelis Drebbel, qui est aussi un Hollandais, il est né à Alkmaar, 1572-1633. Lui, il est aussi dans l'hydraulique, il invente une pompe à eau. Et parce que le roi d'Angleterre connaît son invention de pompe à eau, Jacques Ier le fait venir en Angleterre. Donc c'est un ingénieur hollandais qui va surtout servir en Angleterre. Et il va, pour Jacques Ier, il va lui offrir ce mouvement perpétuel que vous avez représenté ici. Donc ce mouvement perpétuel qui va servir notamment dans la marine anglaise. Drebbel est connu aussi pour sa construction, sa fabrication d'instruments comme les microscopes. Il a inventé un sous-marin, vous l'avez ici. Il y a eu une expérience dans la Tamise de ce sous-marin qui peut un peu nous surprendre, mais on imagine bien le public anglais regardant le sous-marin de Drebbel. Donc des inventions, aussi un mordant pour la cochenille, etc., etc. Bon. Il est troisième, Wenceslas Goberger. Lui, il est des Pays-Bas du Sud, parce qu'il ne faut pas oublier non plus cette partie-là des Pays-Bas, Pays-Bas méridionaux. C'est un peintre aussi au départ, un ami de Rubens, architecte. Donc lui, il a fait le voyage à Naples. Et il va être nommé, c'est là que vous voyez qu'on peut être avoir les deux, et parfois on utilise le terme d'architecte pour celui d'ingénieur, ou d'ingénieur pour architecte. Au tout début du XVIIe siècle, c'est le cas. Il est nommé architecte et ingénieur des archiducs Albert et Isabelle, donc des Pays-Bas méridionaux en 1605. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il a été à l'origine d'un assèchement assez spectaculaire, d'une zone de marécage qui se trouve à la frontière française et des Pays-Bas, entre Furne et Bergue. Il y avait un énorme marécage qui se trouvait à 5 mètres en dessous du niveau de la mer. Et ce qu'a fabriqué Goberger, il a fait une sorte de cordon et installé des pompes à eau, et l'eau qui était pompée au centre partait dans ce cordon qui était un cordon hydrique, d'eau, on rejetait l'eau, et il a pu assécher comme ça cette zone qui est une zone très, très importante et qui a fait sa réputation. Pour vous montrer la polyvalence encore de ces ingénieurs, c'est lui qui a été à l'origine de monts de piété dans les Pays-Bas méridionaux et qui a construit des monts de piété défendant l'idée que c'était un système de crédit, en fait. Donc, on a dans les principales villes, Malines, etc., il a construit les monts de piété. Donc, il a aussi aménagé des forteresses, créé des fontaines. Il est vraiment polyvalent. Salomon de Cos, Saint-Diépois, donc un Normand, rendre hommage aux Normands, 1576-1526. Lui aussi, il a fait le voyage en Italie, et il va servir d'abord les archiducs des Pays-Bas méridionaux, Albert et Isabelle, et réaliser des jets d'eau pour leur château de Marimont. Il passe ensuite au service de Jacques Ier Stuart, où il va enseigner la perspective, les labyrinthes. Il va faire de nombreuses expériences sur la vapeur, notamment. Puis il rentre au service du prince d'Edelberg, où il va aménager de 1613 à 1620 les jardins sur les modèles de la Villa d'Este qu'il avait pu admirer en Italie. Donc c'est un concepteur de machines à eau, de grottes et d'effets, comme vous pouvez le voir ici, d'effets d'optique des différents jets d'eau. Donc il va publier des ouvrages sur la perspective, sur l'institution harmonique, sur le jardin de Palatinus, donc il reproduit le jardin d'Edelberg, et surtout un traité théorique, donc c'est là que c'est un savant, les raisons des forces mouvantes. Donc c'est lui qui il réfléchit donc au mouvement, notamment les mouvements de l'eau, qu'il tente de théoriser, et il fait rentrer les notions de force dans ses calculs. Alors Salomon de Cos passe après au service de la France. À Paris, il va organiser le nettoyage des rues de Paris, qui, à en croire l'état des rues parisiennes aujourd'hui, n'a pas été efficace. C'est une boutade. Et à Rouen, il rencontre les édiles de Rouen et il propose la construction d'un pont. Vous savez qu'il n'y avait qu'un pont de bateau à Rouen à l'époque. On pense à construire un pont de pierre. Salomon de Cos fait une proposition qui n'a pas été suivie. Donc, il est protégé par Richelieu, et de ce fait, il va lui dédicacer un livre sur les cadrans solaires. Bon, voilà une autre figure, mais c'est, vous voyez, c'est les ingénieurs, je dirais, c'est des ingénieurs savants. Alors, pendant toute cette partie, on a vu, au fond, que les ingénieurs intervenaient aussi bien dans l'architecture civile que dans l'architecture militaire. Je citerai cet ingénieur français que vous connaissez peut-être, Louis de Foix, qui fait partie de ses premiers recrutements sous Henri IV et Sully, et qui nous a laissé quand même un très très beau monument, c'est le phare de Cordouan. Donc à l'embouchure de la Gironde, la construction d'un phare en pleine mer, qui était tout à fait une merveille. Et il a largement aussi travaillé dans... Il était responsable de la façade atlantique, donc les fortifications de la façade atlantique. Donc ils œuvrent aussi dans l'hydraulique. Ils fabriquent des machines, que ce soit des machines pour assécher, que des machines aussi pour les jets d'eau, les fêtes, etc. Et ils ont aussi un travail de cartographie. Alors là, la cartographie, c'est, il n'y a pas de corps vraiment constitué, mais on demande aux ingénieurs de faire des relevés cartographiques. Donc on n'est pas au XVIIe siècle dans la triangulation, elle n'est pas encore vraiment appliquée. Donc ce qu'ils font, ce sont des cartes provinciales le plus souvent, des cartes qui sont on a conservé à Vincennes, qui sont colorées ensuite, qui sont très belles. Mais on peut dire que certains des ingénieurs se déclarent plus cartographe que d'autres, et donc finissent par avoir la responsabilité de ces relevés. Mais on n'a pas encore de corps de cartographe, ça sera le XVIIIe siècle. Alors, pour montrer comment le fait de travailler sur l'anticipation ou l'optimisation façonne finalement l'esprit de ces ingénieurs, je vais prendre l'exemple alors du Vauban qui est civil, hein, et notamment de ses travaux hydrauliques. Comme il a à travailler l'hydraulique militaire, hein, par exemple la première citadelle qu'il construit, c'est la citadelle de Lille, et il a dû capter une partie de la rivière qui passe à Lille, la Deule, donc trouver les moyens de la retenir, les moyens de la libérer s'il y avait une attaque. Il sait parfaitement construire des écluses, des ponts écluses, etc. Donc le roi fait appel à ses ingénieurs militaires aussi pour des travaux civils. Et ce qui obsède Louis XIV, vous le savez, ce sont les jardins de Versailles, et surtout qu'il y ait de l'eau à Versailles. Bon, on a tout essayé, les fontainiers, les étangs,
La machine de Marly. Au passage, ça fait partie de votre, ça fait partie de votre question. Pourquoi ? Parce que pour fabriquer une machine qui aille puiser l'eau de la Seine, la monte de plusieurs mètres et soit amenée par canalisation jusqu'au jardin de Versailles, il a fallu faire appel à un Liégeois, Rennequin, qui est un ingénieur qui fabrique des machines pour les mines de Liège, donc les machines d'Exor, hein, celles qui pompent l'eau. Et c'est là qu'il a imaginé cette machine de Marly qui tournait, je ne l'ai pas montré, je vous l'ai montré tout à l'heure, qui tournait quand même nuit et jour, hein, sur trois niveaux, qui faisait que des pièces de bois frottaient contre du métal, ce qui veut dire que l'usure était permanente, qu'il fallait des ouvriers pour changer les palettes nuit et jour. Elle faisait un bruit affreux. Puis j'avais oublié quelque chose, c'est que la Seine, l'été, a des étiages. Bon. Donc, pas d'eau dans la Seine pour ramener l'eau dans les jardins de Versailles à un moment où on profite le plus des jardins, l'été. Qu'est-ce qu'on fait ? Louis XIV, qui avait créé l'Académie des sciences, hein, vous le savez, 1666, dont la finalité de l'Académie des sciences était de donner la première carte scientifique du Royaume de France, c'est ce que Colbert avait donné comme mission à l'Académie des sciences. Et là, 1685, Louis XIV demande aux académiciens de trouver une solution. Donc les académiciens vont explorer les alentours de Versailles et voir s'il n'y a pas un cours d'eau, donc c'est par gravitation, hein, ils pensent à ça, un cours d'eau qui coulerait plus haut que Versailles. Et c'est là que l'académicien Philippe de La Hire va explorer notamment le cours d'eau de l'Eure, vous voyez qui passe à Chartres, hein, l'Eure, et constate que là, l'Eure coule plus haut que les jardins de Versailles. Donc, en faisant une dérivation d'une partie de l'Eure, on arriverait à amener de l'eau à Versailles. Louis XIV applaudit. Le problème, c'est que le petit canal de dérivation, il s'agit de faire dériver, vous voyez, de Pongouin, ici, aller jusqu'à l'étang de la Tour, il y a un passage qui est un peu compliqué, qui est la vallée de la Risse, qui est une vallée assez profonde. Comment faire traverser cette vallée profonde à, en fait, faire remonter l'eau ? Immédiatement, les autres académiciens, notamment l'Académie d'architecture, disent bah, « Nous, on a une solution, on va faire un magnifique aqueduc. » Et puis un aqueduc qui ressemble à l'aqueduc d'où ? Du pont du Gard. Puisque Louis XIV est un nouveau César, il lui faut une œuvre qui ressemble quand même aux œuvres romaines, donc en briques, même... vous voyez, exactement le même profil. Bon. Donc, et on demande aux ingénieurs militaires, notamment Vauban, qui doit venir avec ses ingénieurs les plus proches, qui sont bons en hydraulique et qu'il appelle sa bande d'Archimède, encore une fois Archimède, hein. Ils partent tous sur les lieux des travaux. Il faut qu'ils trouvent les questions, des solutions techniques. Vauban refuse la construction de cet aqueduc, il dit il est moche, enfin il dit pas il est moche, il dit il est vilain, il va coûter trop cher, la guerre aura repris, il ne sera pas terminé. Bon. Je vous propose des siphons, une solution technique de siphons. Et là, Louvois lui dit le maître ne veut pas d'aqueduc grand pan, c'est pas digne de sa gloire, ni de la gloire de Louvois d'ailleurs qui voulait signer ça. Donc, on lui demande d'obéir et de participer ici. Voilà, lui, il avait fait un plan avec des mottes de terre, la canalisation et des siphons. Et finalement, 1688, donc 3 ans après les travaux, vous imaginez 50 000 soldats qui viennent travailler. Ce sont les soldats qui ont fait tous ces travaux de dérivation, de canalisation. La guerre reprend. Les 40 000 soldats repartent sur le front de l'Est. On va laisser le chantier, quelques ouvriers qui vont travailler. Et voilà, maintenant, il n'y a eu que seul niveau d'arche pour l'eau de l'Eure n'est jamais arrivée à Versailles. Bon. Néanmoins, on a fait appel aux ingénieurs, voyez, aux ingénieurs militaires pour régler cette question. Deuxième question importante, là, c'était pour l'économie du pays. Comment relier la Méditerranée à l'Atlantique? L'entrepreneur Riquet de Toulouse avait trouvé une solution, c'est le fameux canal du Midi, canal du Languedoc. Bon. Quand le canal est terminé, aussi en 1686, on s'aperçoit qu'il y a ensablement, il n'y a pas assez d'eau pour que les bateaux de la Méditerranée passent cette partie du canal. Et à Toulouse, le canal s'arrêtait et c'était la Garonne qui prenait le relais. Donc qu'est-ce qu'on fait? On demande aux ingénieurs militaires, à Vauban et à sa bande, de partir et trouver une solution. Résultat, il a dû construire 40 ponts canaux, hein, refaire un autre réservoir, construire le port de Sète, hein, qui était le débouché du canal. Bon. Ceci pour vous dire que les ingénieurs qui doivent travailler pour le bien public, donc là c'est le bien, l'agrément du royaume, mais le canal du Midi c'est pour toute la région et même le commerce général, ont une vocation, on fait appel à eux pour servir, trouver les solutions qui améliorent chaque fois les formes de rendement, hein, pour parler très large. Donc, c'est normal qu'après, ils se posent la question de, à l'échelle du royaume, comment améliorer la navigation des rivières. C'est le mémoire que Vauban a pu rédiger. Son idée, c'était de relier tous les bassins hydrographiques de France par un système de canal pour que tous les transports puissent se faire par voie d'eau. Bon. Ça, c'est un, voyez, exemple de, d'application. On veut que les ingénieurs soient utiles. Dès lors, ils peuvent sortir aussi du cadre des missions qui leur sont affectées et faire des propositions d'utilité générale. Et c'est comme ça que Vauban, notamment, a proposé une méthode, la première méthode que l'on connaisse de recensement. Il appelle ça dénombrement, mais parfois dans le texte, il utilise recensement. C'est la première méthode qui prévoit, en fait, de faire un recensement par tête, par sexe, par âge. Il prévoit même une colonne pour les écoliers, une colonne pour les serviteurs, et après pour tous les biens, est-ce qu'on a une charrue, un moulin, etc. etc. Bon. C'est une nouveauté totale, parce qu'on n'avait pas de recensement. Vous savez qu'on faisait des calculs fiscaux, donc par feu, pour la taille. On considérait qu'on avait à peu près 4 personnes par feu, mais on ne connaissait pas exactement la population. Il fait imprimer une méthode générale. Il l'envoie à tous les secrétaires d'État. Il n'y a qu'un secrétaire d'État qui a répondu « Je fais faire les recensements ». C'est le secrétaire d'État à la Marine qui était aussi responsable des colonies. C'est pour ça que les seuls recensements que nous ayons selon cette méthode, ce sont les recensements du Canada et du recensement des Antilles. Où là, on a un recensement, je dirais, tel que Napoléon nous l'a imposé après. Donc, l'utilité, c'est aussi nourrir la population. Et donc, quand on est ingénieur et qu'on calcule tout, hein, qu'on calcule le moindre outil, qu'on calcule la corde, on va calculer aussi ce qu'un cochon, une truie plutôt, peut donner comme dans les différentes portées, si elle-même a une truie, combien elle va en donner aussi. Et dans le calcul estimatif, qui est une spéculation, c'est là où on voit que les mathématiques et les calculs peuvent devenir une sorte de machine dans la tête de l'ingénieur, il arrive finalement à nourrir toute l'Europe avec, à partir de simplement sa première truie. Donc c'est la spéculation arithmétique totale, et bien sûr l'application, c'est que si on veut améliorer la situation du pays, il faut appliquer son calcul mathématique aussi à la fiscalité, et donc proposer une réforme fiscale, abolir tous les impôts et le remplacer par un impôt qui porte le titre d'un impôt qui a très bien fonctionné depuis le Moyen-Âge, la dîme ecclésiastique et qui là devient la dîme royale. En théorie, ça devait être le dixième ou le douzième de tout ce qui était produit. Il est dans la spéculation aussi. C'est pour lui, c'est le miracle. Mais c'est voilà. Mais ce qui pour nous, peut nous intéresser, et vous voyez une application directe des mathématiques, c'est que dans ses calculs, il arrive en fait à calculer le budget. Le budget d'un manouvrier, paysan qui n'a que ses bras. Et c'est-à-dire qu'il essaie de voir si sa réforme fiscale permettra au manouvrier ou au tisserand, il prend un autre budget, le tisserand, de vivre. Qu'est-ce qu'on peut prélever sur les revenus d'un manouvrier pour que finalement l'imposition ne conduise pas à la misère totale? Alors, il fait un calcul sur le nombre de jours travaillés. Il considère que, c'est pareil pour le tisserand, hein, sur 365 jours, il enlève les dimanches, les jours fériés, les gelées, les marchés, les foires, les maladies. Hein, et on arrive, pour tout le monde, hein, c'est 180 jours de travail. Et donc, on a, vous voyez, le gain, calcule un gain, ce que on peut payer en dîme, ce qu'on doit payer en sel, et finalement, qu'est-ce qui peut rester une fois qu'on a payé le pain, hein, il va lui rester 15 livres, 4 sols. Donc, il trouve que c'est encore viable de faire ce type de prélèvement. C'est une pensée, et ça, c'est directement une pensée d'ingénieur. Vous voyez, je vous disais, parce qu'ils sont obligés de faire les devis, ils sont obligés de calculer. Donc, quand ils proposent une réforme, ils calculent les effets de la réforme. S'ils proposent une réforme fiscale, ils essaient de calculer ce que ça veut dire pour l'individu lambda dans sa catégorie sociale. Et ça, c'est la démarche même de l'ingénieur. Le fort portant le faible, hein, et démêler le fort du faible. Optimiser. Voilà, donc voilà tout ce que doivent faire les ingénieurs. Et au passage, parce que je pense que personne ne vous en parlera, pour le XVIIe siècle, quand on est un savant philosophe comme Pascal, qu'on est mathématicien et qu'on œuvre aussi pour le bien commun, on le montre en participant à l'assèchement des Maris du Poitou avec le duc de Roannes. Eh bien, on va appliquer son génie mathématique à créer le premier transport en commun de Paris. 1662, le mathématicien, parce qu'il est géomètre, invente le carrosse à 5 sols. C'est un transport en commun qui, donc, comme son nom l'indique, est un carrosse. Donc, c'est en fait le véhicule qui représente la richesse, qui représente l'aristocratie, que Pascal veut mettre à la portée de la population parisienne. On empruntera un carrosse. Et c'est un carrosse qu'on prend à plusieurs, il y a 6 places à l'intérieur, et on paie 5 sols. Bon. Pour lui, 5 sols, c'est pas grand-chose, sauf que 5 sols, c'est, on peut dire que un artisan gagne souvent 8 sols ou 10 sols par jour, donc 5 sols, c'est quand même assez cher. Et il va prévoir, la géométrie, c'est de prévoir les lignes. Il va prévoir des lignes. La première ligne, donc c'est la ligne 1 qui est en orangé, qui va partir de la Bastille pour aller jusqu'au Luxembourg en passant par le centre de Paris. Bon, je ne vais pas rester sur ces lignes, mais disons qu'il a essayé de voir ce qui pouvait être le plus utile comme trajet, essentiellement pour ceux qui vont fréquenter ou les Halles ou le palais de justice, c'est-à-dire les hommes, les juristes ou certains commerçants. L'idée était bonne, en fait. Mais chaque fois que vous changiez de ligne, après, il a prévu les correspondances, comme pour le métro, si vous voulez. Mais le problème, c'est qu'il fallait repayer 5 sols à la correspondance. Ensuite, c'était pour lutter contre les embarras de Paris, décrits par Boileau. Mais des carrosses qui passent dans des rues déjà fortement encombrées, ça veut dire des rixes. Et Pascal a dû faire appel, en fait, aux forces du guet de Paris pour protéger les carrosses qui, finalement, étaient attaqués par la population. Ça a fonctionné 3 ans, mais tous ceux qui louaient les fiacres, qui louaient des carrosses à l'heure, etc., ont fait tellement de pression que ça n'a pas fonctionné. Mais je vous donne cet exemple parce que ça permet de voir que l'esprit mathématique et géométrique associé à cette idée qu'il faut œuvrer, bon, Pascal est janséniste, hein, mais et il faut œuvrer pour le bien commun, faire partager en fait les bienfaits au maximum de personnes, ça se convertit, vous voyez, en innovation. Et Pascal, dans son texte, quand il demande l'autorisation de faire ça, dit c'est une innovation. Donc il se place vraiment du côté des savants. Donc imaginez que l'innovation savante, elle a aussi ce type d'implication. Autre exemple qui va me permettre de faire le relais avec le XVIIIe siècle, où on a les civils et les militaires qui vont être séparés, c'est l'exemple d'un ingénieur, de Nîmes, Henri Gautier, 1660-1737. Je vous le signale simplement parce qu'il montre comment un ingénieur qui n'a pas obtenu un brevet royal d'ingénieur, qu'est-ce qu'il peut faire pour obtenir du travail ? Il est bon en mathématiques, il est bon en dessin et il veut être ingénieur. Il est nîmois, donc il est né dans une famille protestante. Il est protestant à un moment où en France, c'est pas très très bon d'être protestant. Néanmoins, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va d'abord, comme il veut être ingénieur, il rédige un traité de fortification, 1685. Bon, il se dit, c'est pas la peine que je le propose en France, je suis protestant, ça va pas marcher. Donc, il le propose en Suisse, chez ses co-religionnaires, ne trouvent pas le traité intéressant, donc pas de succès, pas d'emploi. Deuxième écrit de Gautier, l'art de laver les plans, 1687. Donc, c'est l'art d'utiliser les couleurs pour faire les lavis, hein, pour faire les plans. C'est un traité qui a été réédité pendant tout le XVIIIe siècle. Hein. C'est un très bon traité. Ça ne suffit pas à lui donner un emploi. Il continue. Il va écrire un traité d'artillerie. Et là, il va intéresser la marine où il se dit dans les textes, ingénieur de la marine. Bon, pendant très peu de temps, peut-être que son traité d'artillerie a permis qu'on l'emploie un peu comme ingénieur de la marine, notamment à Toulon. Mais le contrat n'est pas renouvelé, et voilà notre protestant qui finalement se convertit au catholicisme et va faire des cartes des diocèses. Quand même le comble. Hein. Donc, diocèse de Nîmes, diocèse de Toulouse, diocèse de Béziers. Et vous voyez là la carte du diocèse de Nîmes, qui est quand même une carte magnifique, qui a comme particularité de présenter tout ce qui peut faire l'attrait de Nîmes. Hein. Ça pourrait être le syndicat d'initiative qui fait cette carte où on voit tout ce qu'il faut aller visiter à Nîmes. Bon. Ça lui donne la possibilité d'être engagé comme ingénieur de la province du Languedoc. Autre possibilité, ce n'est pas un ingénieur militaire, c'est un ingénieur civil, et c'est la grande province très riche du Languedoc qui l'engage comme ingénieur. Et là, il continue à publier à tour de bras un traité de la construction des chemins, donc ça sert parfaitement le Languedoc. Il réécrit un traité sur l'art de dessiner en 1697 et il va faire en 1716 un traité des ponts.
Mais entre-temps, à partir de 1714, on commence à constituer un corps d'inspecteurs des ponts et chaussées. On commence à s'intéresser à ces ingénieurs, inspecteurs, donc des routes, des canaux. Et c'est là que Henri Gautier, finalement, va trouver une carrière, hein, le début d'une carrière, à partir donc de la constitution vraiment du corps sous la Régence en 1716. Donc vous voyez, je vous donnais cet exemple pour quand on est ingénieur, si on veut avoir en fait un emploi, il faut se faire connaître, il faut essayer de montrer ses compétences. Montrer ses compétences tant qu'on ne peut pas être sur le terrain, c'est par la publication. Et finalement, il a été récompensé puisqu'il a fini dans les ponts et chaussées. Troisième et dernier point, là, au XVIIIe siècle, l'institutionnalisation et la spécialisation des ingénieurs. En fait, au XVIIIe siècle, c'est la volonté des États de contrôler les ingénieurs, de contrôler leur carrière, qui est la règle dominante. Alors, surtout en France, où s'est créé un modèle, on pourrait dire ce qu'on appelle le modèle français, c'est-à-dire la création de corps spécialisés, dont les règles de recrutement, d'avancement sont définies, ainsi que les établissements de formation. Donc, pour les militaires, va être créé, on peut dire que on va reconnaître le corps du génie militaire, c'était celui des fortifications de 1691, mais qui est vraiment reconnu lorsqu'une école du génie est ouverte, c'est l'école du génie de Mézières, donc à côté de Charleville, en 1741. Recrutement des candidats à cette école sur concours, à la française, hein, sur concours, des candidats qui doivent être nobles, même étrangers, peu importe. Et c'est là qu'entre 1741 et 1794 vont être formés 550 ingénieurs militaires, parmi lesquels Lazare Carnot ou Charles-Augustin Coulon. Donc c'est une élite scientifique et technique, hein, du génie, qui ont eu comme professeurs les grands scientifiques comme l'abbé Nollé pour la physique expérimentale, ou Gaspard Monge, hein, qui est quand même aussi connu, qui était professeur de mathématiques à l'école de Mézières. Et en fait, ce phénomène français va, pour les écoles militaires, va être adopté dans d'autres pays européens, par exemple dans les Provinces Unies, où un corps du génie est créé en 1701, à Gênes en 1713, dans les Pays-Bas autrichiens en 1717, à Naples en 1736, etc., etc. C'est-à-dire que tous les pays successivement se dotent d'un corps d'abord, et ils envoient en général leurs élèves dans l'école française jusqu'à ce qu'ils créent eux-mêmes des écoles françaises. Alors, cas particulier de l'Angleterre, où il n'y a pratiquement pas d'ingénieurs, très peu d'ingénieurs militaires, et le seul corps qui est constitué à partir de 1716, le corps d'ingénieurs, pour construire des fortifications, c'est pour les fortifications dans les colonies. Donc, ils sont clairement formés pour construire les fortifications. C'est des ingénieurs pour les colonies. Et à partir de 1741, associés à l'arsenal de Woolwich,
on va avoir des ingénieurs militaires, mais je dirais plutôt des ingénieurs militaires navals. C'est le choix anglais. Alors, nouveauté au XVIIIe siècle, c'est la totale reconnaissance des ingénieurs civils. En France, le premier corps d'ingénieurs, donc reconnu comme le corps des l'inspection des ponts et chaussées en 1714, corps des ponts et chaussées en 1716, puis création d'une école des ponts en 1747. Donc c'est le modèle français, vous voyez, dès qu'on a un corps, après on pense à le former dans une école spécialisée. Donc ce sont vraiment des ingénieurs d'État chargés d'améliorer les infrastructures de transport et qui ont une mission générale, hein, qui est, qu'on leur enseigne à l'école des ponts et chaussées, c'est œuvrer pour le bien public. Un autre corps va aussi être développé à la fin du XVIIIe siècle, c'est celui des ingénieurs des mines. Donc, en France, le corps des mines est créé en 1781 et l'école des mines en 1783. Donc, ceux qui ont eu la primauté dans le secteur minier, ce sont bien sûr les Allemands, puisque la première école minière a été créée en 1735. Donc, sur ce grand centre houillé de Chemnitz, qui, en 1735, où a été créée cette école où on enseignait la docimastique, c'est-à-dire l'art des essais, c'est-à-dire la capacité à reconnaître les qualités d'un minerai à la vue, au toucher, au goûter, notamment. Donc, ces grandes écoles à Chemnitz et en Saxe, en 1765, une académie des mines a aussi été créée à Freiberg. Alors, pour ces ingénieurs, la caractéristique, c'est qu'il y a une grande circulation. On vient des autres pays pour séjourner, demander aussi à suivre quelques cours dans les établissements français. Mais on continue aussi à se former par le voyage, et je citerai seulement le voyage de Gabriel Jarre, 1732-1769, ingénieur des mines, qui est issu de l'école des ponts et chaussées, il n'y avait pas encore l'école des mines, et qui a voyagé dans toute l'Europe pour recueillir des informations, donc directement des techniques observé lors de ses voyages, et il a publié donc toutes ses observations dans son livre Voyage métallurgie. Alors, en Angleterre, le modèle est complètement différent, c'est-à-dire que les Anglais, les ingénieurs civils, s'appuient complètement sur le monde des métiers. Ce sont des ingénieurs mécaniciens qui sont concepteurs et qui travaillent avec les artisans qualifiés. Et ces ingénieurs obtiennent de l'État des privilèges d'invention, des brevets, pour protéger leurs inventions. Donc finalement, à la fin de la période, ils vont se regrouper, alors non pas, vous voyez, dans un corps, non pas dans une école, mais dans une société, c'est la Société des ingénieurs civils, qui a été fondée par l'un d'entre eux, John Smeaton. Donc c'est vraiment une particularité, vous voyez, anglaise. Et si on prend le cas de bien connu de James Watt, il se désigne au début de sa carrière non comme mécanicien, mais à partir de ses découvertes, la fameuse machine à vapeur, il demande à être appelé ingénieur. Donc, on a des ingénieurs civils qui travaillent auprès des manufactures en Angleterre, auprès des ateliers d'artisans, au mieux de la production. Et lorsqu'ils ont une innovation, ils obtiennent, ils essaient d'obtenir un brevet d'invention. S'il n'y a pas cette idée d'appartenir, vous voyez, à un corps identifié, financé par l'État. C'est vraiment le privé. On est dans le domaine privé pour les ingénieurs civils. Voilà. Bon. Oui, je voulais vous dire que pour les ingénieurs géographes, il y aura reconnaissance qu'à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Hein. Simplement, c'est les ingénieurs géographes. Il y a un corps d'ingénieurs géographes militaires organisé par Berthier. Bon, mais en 1794, la Convention supprime tous ces corps d'ingénieurs pour les rassembler dans l'école polytechnique.